VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Le premier ministre tunisien Habib Essid a affirmé aujourd'hui qu'il était prêt à démissionner si l'intérêt du pays l'exige, après que le président Béji Caïd Essebsi se soit dit favorable à un gouvernement d'union nationale. Réagissant aux critiques persistantes contre l'actuel exécutif, le président Essebsi s'est dit jeudi soir favorable, sous certaines conditions, à un gouvernement d'union. Il a ajouté que celui-ci pourrait être dirigé par M. Essid ou une autre personnalité. En République démocratique du Congo, le M23 dément toute démarche visant à se transformer en parti politique. Le mouvement rebelle a fait une mise au point à ce sujet après une réunion avec le gouvernement sous les auspices de la communauté internationale. Les précisions du porte-parole du M23, Elia Moutela.
À la date d'aujourd'hui, le M23 n'a pas entamé une procédure administrative pour la transformation du M23 en parti politique. Il y a certains ex-membres de l'organisation qui ont quitté l'organisation, qui ont décidé de créer un parti politique. Ils veulent entretenir une confusion en faisant penser que c'est le M23 qui s'est transformé en parti politique. L'ex-camarade Chokwe et d'autres personnes qui ont introduit une demande d'agrément d'un parti politique, le M23 n'est pas encore à ce stade. Nous avons plusieurs points contenus dans la déclaration de Nairobi qui doivent précéder la demande de la transformation de notre parti politique. Je vais vous donner les raisons. C'est que nous sommes dans le pays étranger, en Ouganda et au Rwanda, et qu'à ce jour, le M23 n'est pas à mesure d'organiser le préalable face à celle qui se transforme en parti politique, entre autres la tenue d'un congrès. Et donc aujourd'hui, il y a d'autres points. Il y a l'amnistie, il y a la libération des prisonniers, il y a la mise en place des commissions de mise en œuvre de déclarations. Et après tout cela, on aboutira maintenant à la transformation du M23 en parti politique.
Vous évoquez dans la mise au point une réunion avec le gouvernement le 27 mai dernier sous les auspices de la communauté internationale. Où en êtes-vous dans les négociations avec le gouvernement?
En date du 27, nous avons été à Kinshasa sur invitation de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, l'ambassadeur Saïd Djinit. Nous avons, avec d'autres organisations garantes de déclaration de Nairobi, la CIRGL, l'Union africaine et la SADC, tenu une première réunion avec le gouvernement de Kinshasa qui avait comme un seul point inscrit à l'ordre du jour l'évaluation des déclarations de Nairobi. Et nous avions procédé point par point à l'évaluation de tous les points contenus dans les déclarations.
Un dialogue est annoncé avec toutes les forces vives du pays. Est-ce que vous êtes contacté à ce sujet?
Nairobi, ça fait plus de 3 ans que nous réclamons le respect des engagements pris à l'issue de ces dialogue que nous avons avec le gouvernement. Donc, le dialogue qui a été convoqué par le gouvernement n'est pas encore opportun pour nous.
Elia Moutela, le porte-parole du M23 juin à Kampala, en Ouganda, par Eddy Issango.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les Nations Unies demandent 2500 soldats et policiers supplémentaires pour renforcer leur mission au Mali, devenue l'une des plus dangereuses au monde. John Lindon.
Le Conseil de sécurité doit étudier ce renforcement de la MINUSMA et un allongement de son mandat lors d'un vote prévu le 29 juin. C'est suite à une série d'attaques meurtrières. 12 personnes ont été tuées rien qu'au mois de mai, dont un casque bleu chinois et 3 civils dans une double attaque mardi à Gao. Pour Stéphane Dujarric, porte-parole onusien, le personnel de l'ONU a payé de son sang. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, propose d'ajouter plus de 2000 soldats et 480 policiers à la MINUSMA, qui compte déjà quelque 12 000 hommes. Il demande aussi une force de réaction rapide de 650 soldats, une unité aérienne de 85 personnes et le déploiement de forces spéciales à Tombouctou et à Kidal, pour le renseignement et la surveillance. Une équipe spéciale de 30 policiers serait basée à Bamako pour soutenir cet effort.
Des opposants gambiens ont appelé hier à Dakar les pays voisins à prendre des sanctions contre la Gambie face à la répression qui s'y est aggravée selon un rapport publié par Amnesty International. Maëlys Hegel.
Ce rapport a été rendu public hier lors d'une conférence de presse avec les opposants gambiens à Dakar. Amnesty dépeint un tableau sombre du pays de Yahya Jammeh. 51 personnes sont en cours de jugement. Au moins 36 personnes ont été arrêtées sans inculpation depuis une manifestation pacifique le 9 mai 2016. Et enfin, le syndicaliste Solo Sandeng est mort en détention. L'ancien ministre et opposant Amadou Jané a qualifié la situation de tragique. Lorsque la case de votre voisin brûle, si vous avez de l'eau, allez éteindre le feu, a renchéri l'activiste gambienne Fatoumata Tambanyang. Elle a appelé à des sanctions ciblées, comme le gel des avoirs de Jammé et de ses proches, ou les empêcher de voyager. Amnesty International, pour sa part, appelle la CEDEAO à accroître la pression sur Banjul et suggère la possibilité de suspendre la Gambie si aucune avancée n'est réalisée sur le terrain des droits de l'homme. Dakar doit abriter ce vendredi un sommet de la CEDEAO.
En Mauritanie, les familles de 8 personnes qui ont péri dans une bousculade mercredi à Nouakchott recevront chacune près de 10 000 euros. Tatiana Mosso.
La bousculade est survenue dans le quartier de Tevra Zaina, au centre de Nouakchott. De nombreux pauvres se pressaient pour recevoir l'aumône qui était distribué par Zain El Abidine Oulcher Ahmed, un riche homme d'affaires actif dans le commerce et l'immobilier. 8 personnes ont été tuées et une vingtaine blessées dans le mouvement de foule. Zain El Abidine a rendu visite aux familles des personnes décédées et a remis à chacune près de 10 000 euros. C'est ce qu'a affirmé un de ses proches. La fille d'une des victimes a confirmé sa visite et la somme annoncée. L'homme d'affaires a aussi décidé de prendre en charge les soins des blessés, en plus de leur part de la zakat qui leur sont remises directement. La zakat est l'aumône légale en islam que les riches doivent donner aux pauvres pendant le mois de Ramadan qui commence la semaine prochaine.
Le département d'État américain estime que la menace du terrorisme international devient de plus en plus décentralisée avec des groupes comme l'État islamique. Ces derniers étendent leurs tentacules au-delà du Moyen-Orient, y compris en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans le Nord-Caucase en Russie. Ces conclusions sont contenues dans le rapport annuel du département d'État américain. En Californie, à San José, il est 4h06.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Et des bagarres ont éclaté jeudi soir entre pro et anti-Trump en Californie, au moment où le futur candidat républicain à la présidentielle tenait un meeting dans la ville de San José. Des incidents intervenus devenus récurrents depuis le début de la campagne du milliardaire américain. La semaine dernière, des dizaines d'opposants au milliardaire ont été arrêtés dans la ville de San Diego. Le guide suprême iranien Ali Khamenei a lancé aujourd'hui une virulente diatribe contre ceux qui restent les ennemis de l'Iran, États-Unis, Grande-Bretagne et Israël, lors d'un discours à l'occasion du 27e anniversaire de la mort du fondateur de la République islamique, l'imam Khomeini. Idrissa Seydoudia.
Ali Khamenei a accusé les États-Unis de ne pas respecter leurs engagements dans l'accord nucléaire conclu avec les puissances du groupe P5+1. Après l'entrée en vigueur de l'accord nucléaire, une grande partie des sanctions internationales ont été levées par l'ONU, les États-Unis et l'Union européenne. Mais les États-Unis et l'Union européenne maintiennent toujours des sanctions liées au programme balistique de l'Iran, à la situation des droits de l'homme et au soutien à des groupes comme le Hezbollah libanais, qualifié de terroriste par les États-Unis. L'Iran accuse en particulier Washington de ne pas faire le nécessaire pour rassurer les grandes institutions bancaires internationales qui rechignent à faire des affaires avec l'Iran par peur de mesures punitives américaines.
Au moins 31 civils ont péri ce vendredi dans des frappes du régime syrien sur les quartiers rebelles de la ville d'Alep et ses environs, selon la défense civile. Les bombardements les plus violents depuis une dizaine de jours. 21 personnes ont été tuées dans ces bombardements sur la ville. 10 autres ont péri lorsque les avions du régime ont pris pour cible un bus qui circulait près d'Alep sur la route de Castelo, seul axe permettant un contact avec l'extérieur pour les zones tenues par les rebelles, selon la défense civile. Et puis, je vous l'ai dit en début de journal, le premier ministre tunisien Habib Essid a affirmé aujourd'hui qu'il était prêt à démissionner si l'intérêt du pays l'exige, après que le président Béji Caïd Essebsi se soit dit favorable à un gouvernement d'union nationale. Réagissant aux critiques persistantes contre l'actuel exécutif, le président Essebsi s'est dit jeudi soir favorable sous certaines conditions à un gouvernement d'union. Il a ajouté que celui-ci pourrait être dirigé par M. Essid ou une autre personnalité. Jean-Roger Billon, le prochain journal, c'est Henri Francis et c'est dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.